Et si on en parlait ? Une émission parrainée par le restaurant Le Sud, place André Lescure à Villefranche-de-Rouergue. Le Sud, pour ne pas perdre le Nord. Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?». Le temps est un peu mieux aujourd'hui. Et pour moi, il est encore mieux, vu qu'à côté, il y a Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour Michel, bonjour à tous. Bonjour Mathias.
Oui, à la Mathias, technique, le célèbre fidèle. Mathias, qui a les oreilles haut placées, bien sûr, tout le temps. Et aujourd'hui, alors, je vais te laisser présenter notre invité. Alors, je vous le décris un peu, c'est un monsieur qui a des lunettes, qui a l'air très sérieux, et qui a une particularité, c'est d'entendre pas très bien, nous a-t-il dit. Donc je vais articuler.
Ça se voit
oui,
pas.
Oui, bonjour, voilà,
c'est bonjour. Bienvenue.
Yves Prieto, bonjour.
Et bonne année. Il ne faut pas dire encore bonjour. Le nom, parce qu'elle va
bonjour.
Se présenter.
Ah, Yves, alors, vous avez entendu, c'est Yves Prieto. On va commencer par Yves, la signification du prénom. L'étymologie du prénom, c'est if en celte, l'arbre. Tu savais ça ? Yves est un homme entier, courageux, énergique et viril, qui se veut sévère. Sous une certaine rudesse et des airs conquérants, il a une grande sensibilité qu'il tend à maîtriser, ainsi qu'une certaine séduction qu'il n'entretient que discrètement. Timide, inquiet au fond de lui-même, il doute de ses capacités, mais il compense parfaitement par une activité nettement au-dessus de la moyenne et une volonté à toute épreuve. Il est plutôt strict, déteste la flatterie, le mensonge, les faux-semblants et surtout l'injustice. Yves aime le contact avec les autres, a un sens certain de l'amitié et il est persuasif lorsqu'il le désire. Il aime avant tout sa liberté, le jeu ainsi que les plaisirs de ce monde. Taillé pour réussir dans la vie, notamment matériellement, Yves sera attiré par une profession où l'action et les voyages sont présents. Une profession où l'expression est importante. Et maintenant, l'origine du nom Prieto. Alors, ça vient de l'ancien castillan qui veut dire obscur, noir. Mm-hmm. Voilà. Alors, est-ce que... Alors, bon, donc, bonjour Yves.
Bonjour Yves.
Est-ce que tu te reconnais dans ce prénom ?
Oui, j'allais te dire, j'ai pas voulu te couper, mais c'est impressionnant comme... On se rapproche de mon fonctionnement, effectivement.
D'accord.
Cette espèce de timidité cachée, cette agressivité, d'aller jusqu'au bout des choses et cette recherche, cette passion du détail qui, naturellement, jusqu'au bout, devient même emmerdante d'avoir quelqu'un qui est dans le détail. Mais j'ai eu la chance d'avoir un métier qui m'amène dans cette perfection. J'ai travaillé sur satellite et j'ai même travaillé aux États-Unis pour ça. Et c'est vrai que là, on n'a pas le droit au fait d'être approximatif. Il faut que ce soit très précis. Voilà.
D'accord. Donc le prénom, vraiment, c'est...
Oui, je suis étonné. Ça convient. Vraiment étonné de voir la description.
Super.
Le nom
Yo soy espagnol.
Et voilà.
Juste, tu vas te présenter très vite pour dire un peu ce que tu fais, mais très vite parce qu'on va te découvrir en entier.
Alors ce que je fais à l'heure actuelle ou ce que j'ai fait en gros ?
Ce que tu as fait en gros, mais très vite, parce qu'on va détailler après. Et ce que tu fais maintenant ?
Waouh !
En gros, je suis quelqu'un qui, d'un côté, n'a pas eu de bol puisque j'ai été abandonné par mes parents très tôt.
Non, mais ça, on en parlera après.
Donc voilà, je suis pas sur le côté de se plaindre, mais pour dire ce que la vie m'a offert. Et justement, le fait d'être mis très très tôt au pied du mur m'a rendu plus combatif,
plus fort peut-être, avoir envie d'aller oui, de fait, foncer voilà, plus. Oui. De...
Donc tu es maçon parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, non tu n'es
oui,
pas maçon.
Oui, tout à fait, oui.
Tu bosses.
Moi, j'apprécie.
Tu bosses dans la musique un peu ou quoi?
Dans la musique, non, malheureusement. Enfin, j'ai fait de la musique en chantant, notamment à La Cigale à Paris, qui était une chorale avec Gaston Litaise, qui était organiste. Mmh. mais ça n'a duré que le temps où je suis resté dans l'école de jésuites où j'étais à Paris.
D'accord.
Puisque j'en ai fait beaucoup, j'ai été viré de partout. Bah, ce qui est un peu normal, hein. Quand on n'a pas de famille, on est bien nulle part.
Et maintenant, tu fais quoi?
Et maintenant, alors après, j'ai été dans la musique, j'ai été ce qu'on appelle un barjot de musique. D'abord classique, et tout ça parce que j'ai pu rencontrer dans ma vie des gens qui m'ont enseigné la musique.
Mais on va en parler après. Dis-moi ce que tu fais maintenant.
Alors aujourd'hui, ce qui me fait passer mon temps, alors je suis à la retraite, et ce qui me fait beaucoup passer mon temps, c'est l'image et la musique.
Voilà, c'est bon, pas plus. Alors maintenant, tu vas nous tout savoir sur toi. Tu es né où, quand, comment, pourquoi?
Waouh.
Tout savoir. Déjà, la date de naissance.
Est-ce que tu es né en France?
Je suis né en Algérie.
En Algérie, d'accord.
En 1949.
Parents espagnols?
Parents espagnols qui étaient partis en 36, etc. Alors, il y a ceux qui sont allés vers la France.
Et tes parents sont partis en Algérie?
En Algérie, à Oran.
D'accord.
Oran, qui était le vivier des Espagnols.
D'accord. Comme mon grand-père.
Ah bon,
okay. Molina, et qui d'accord. est né à Oran. Voilà, c'est rigolo.
Mais oui, ça fait pas très suédois, Molina, non plus.
Ah non. Donc tu es né en Algérie.
Oui, tout à fait.
Ok. Et puis, tu es resté
en 49.
Oui, mais la date exacte.
Le 14 mai.
14 mai, c'est quel signe?
C'est un taureau.
Taureau, d'accord,
oui.
Ascendant.
Oui, oui, je suis un taureau. Oui.
L'ascendant, tu le sais, non?
Je sais pas. Bon, je retiens jamais ce truc-là. Mais...
Non, parce que j'y connais rien, donc c'est pas très bien.
Alors, est-ce que tu es resté longtemps en Algérie? Jusqu'à quel âge
non,
tu es resté?
Non, en fait, justement, du fait de ce rejet, enfin, de ce rejet de mes parents, qui avaient du blé, mais qui avaient autre chose à faire. Très tôt, j'ai été envoyé en France.
Que faut-il faire des parents?
Alors, c'est surtout
pour
les grands.
Pour aller bosser en Algérie, quand même.
Alors, mon grand-père, qui était un Muller, est allé là-bas à l'époque du duc d'Aumale, donc au moment de la conquête de l'Algérie. C'était un vrai pied noir avec des bottes noires, donc un militaire.
D'accord, bah c'est souvent.
Et qui a eu des centaines d'hectares qui lui ont été donnés par. Etc. Donc, qui a été un gros cultivateur. Et il a eu des enfants, en l'occurrence ma mère. Et ma mère a eu la malchance d'avoir comme amant quelqu'un qui est un Espagnol qui n'avait aucune. Enfin, c'est pas aucune envergure, mais qui n'avait pas le même statut, quoi. Donc, en gros, c'est ça, l'histoire.
Et d'accord. Frère
et à l'époque, ça rigolait pas, quoi.
Et oui.
Et quelques frères et sœurs?
Ben, ça fait qu'en plus, elle m'a eu très tôt, et qu'à l'époque, l'IVG et compagnie n'étaient pas de mise. Donc, comme ils avaient du blé, ben, on l'a remarié différemment, et puis moi, on m'a écarté, quoi. Voilà.
D'accord. Donc, très tôt, on t'a écarté de
oui, vers les 3 ans, par là.
D'accord. Ah oui, t'es resté quand même 3 ans.
Oui. Et
Est-ce que tu as des souvenirs de cette période-là de... Est-ce que tu as des souvenirs?
Oui.
Jusqu'à tes 3 ans?
Oui, oui,
de,
oui.
De ta maman et... Oui?
Oui, oui, j'ai le souvenir d'une femme, je pense qu'elle était bien embarrassée avec, imagine, hein, tu es une femme toi-même, imagine, une femme qui est avec un bébé dont personne ne veut, plus qu'elle. Elle jeune, donc, quand elle m'a eu, elle avait 15 ans et demi, 16 ans, donc, aujourd'hui, avec le recul, avec mon âge, j'imagine ce que ça peut être pour cette femme. Quoi.
C'est encore très difficile aujourd'hui, alors j'imagine à l'époque ça devait être. Est-ce que tu as revu plus tard ta maman?
Ben, je la revois encore maintenant.
Elle
a eu naturellement, on peut l'imaginer. On ne peut pas avoir une attitude comme ça envers un enfant et avoir une vie linéaire et pleine de joie, etc.
Donc, j'imagine, oui.
Là maintenant, elle est en train de terminer sa vie et je ne me sens pas le droit, si tu veux, d'aller la voir et lui dire mais plutôt elle m'a donné la vie, elle a fait comme elle a pu et donc quand je peux et qu'elle a vraiment besoin, je vais la voir. Et voilà, il y a eu une fois où on a eu besoin de se dire ce qu'on avait à se dire, surtout moi, mais en lui disant bien que je le lui disais sans lui reprocher quoi que ce soit.
Oui, ce que tu vois, toi, tu avais ressenti et comment tu avais souffert peut-être, mais sans lui rejeter la faute, parce que je pense que la culpabilité, elle a dû l'avoir quand même.
Oui, je pense que c'est la maturité qui nous apprend à... peut-être un peu de spiritualité également permet de remettre les choses à leur place, de remettre chaque être humain dans un chemin d'appréciation des choses à sa juste valeur. Et donc voilà. Oui, j'en ai souffert jusque vers l'âge de 30 ans, où après j'ai eu 30-35 ans, où j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont appris Ah, je dirais ces choses, je rentrerai pas dans le domaine de la spiritualité, d'accord, ça n'est pas le propos aujourd'hui. Mais voilà, oui, c'est dans ce domaine-là que j'ai appris à gérer les
on
choses.
On t'a aidé, ouais. Oui, et donc, à 3 ans, tu es parti en France, tu dis?
Oui, à Saint-Gervais.
D'accord. Et dans une famille d'accueil ou?
Alors, bon, ben voilà, là aussi, on m'a bluffé. On m'a dit que c'était dans un préventorium, parce que j'avais soi-disant des poumons qui allaient pas. Et figure-toi qu'en venant ici, dans le Rouergue, Claudie, que tu connais, ma compagne.
Oui.
Un jour, puisqu'elle était elle a été pendant un bout de temps dans les Alpes et à Chamonix.
Ouais.
Un jour, en se baladant, on est passé près de Saint-Gervais. Figure-toi que 50 ou 60 ans plus tard, j'ai reconnu l'endroit où j'étais. Il y avait une personne âgée près de la maison et je lui ai dit, je lui ai demandé, mais comment ça se fait? C'était pas un truc de, pour un préventorium. Mais non, c'était une dame de la DAS qui gardait les...
Ah, d'accord. Ah donc, ouais, c'était une vanne. Tu étais trompé.
Ah ouais.
D'accord.
Alors
okay.
Donc, tu as rencontré cette vieille dame, ta maman est une vieille dame maintenant, donc on va écouter un morceau d'une vieille dame.
Oui, tout à fait.
Suite maman, tu as choisi pourquoi ce morceau?
Parce que j'ai été très surpris, c'est quand j'ai travaillé un bout de temps aux États-Unis et j'ai été très surpris de quand je suis rentré dans ce fameux Preservation Hall, qui est un endroit mythique pour la musique New Orleans, à la Nouvelle-Orléans, où cette dame de plus de 70 ans à l'époque jouait avec sa bande de copains du même style d'âge, du jazz sur un vieux piano désaccordé. Et vous allez entendre, avec ce vieux piano désaccordé, elle arrive à donner un rythme et un son qui est fabuleux.
Allons-y,
bien,
écoutons.
Sweet Emma.
C'est toujours
Sweet Emma, c'est la musique de Nouvelle-Orléans. Et donc, revenons à ta jeunesse. Donc, tu as fait Tu n'as pas fait tes écoles donc en Algérie du tout, t'es pas allé maternelle.
Si, figure-toi qu'après, donc j'ai été renvoyé de plein de boîtes en France. Et en désespoir de cause, de l'indépendance de l'Algérie, j'ai été renvoyé vers l'Algérie, où j'ai fait toujours la même chose des écoles de curé. J'étais à Oran, je suis revenu à Oran, enfin, mais à côté, à Bousfer.
Pourquoi les écoles de curé? Parce que tes parents étaient là-dedans?
Non, pas du tout.
Ou uniquement pour te placer.
Non, parce que je ne sais pas si tu es au courant, je ne sais pas si c'est toujours la même chose de nos jours, mais à l'époque, mettre un gosse dans une boîte de curé, il y avait une formation, non seulement une formation à l'école, mais en plus pour l'élever, pour... Les boîtes de curés ont toujours été renommées pour donner une certaine éducation.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je reconnais que j'ai reçu, notamment chez les jésuites et les oratoriens, une formation qui m'a un petit peu modelé pour me permettre d'avoir beaucoup plus de pragmatisme. Le discernement et ce genre de choses, c'est apprendre ça avec les jésuites.
Ça, d'accord. Oui, tu apprends ça, puis tu avais aussi le soir le bromure pour dormir. Le bromure aussi le soir pour dormir.
Oui, tout à fait, oui.
C'est pour faire des bons enfants.
Absolument, oui, oui, mais à petite dose.
À petite dose.
Oui.
Et quand tu dis que tu as été viré de pas mal d'endroits, c'est parce que tu étais un enfant comment coléreux, bagarreur
Ben tout à la fois, j'étais absolument révolté. J'étais révolté parce que j'avais pas de maman qui venait de me chercher, et encore moins de papa, bien sûr. Et que
tu t'avais
je voyais
place,
pas d'avenir quoi. Dans ma vie, d'accord. Que j'étais, comme tu le disais dans ta description tout à l'heure, à la base, un gosse très curieux, etc., et qui était tout le temps enfermé. Le fait d'être enfermé du 1er septembre au 24 décembre, où j'allais en colonie de vacances pour les vacances de Noël, et ensuite, en revenant des vacances de Noël, jusqu'au 30 juin... Voilà, pour partir ensuite dans des colonies de vacances, quoi.
D'accord.
Donc j'étais tout le temps, et tu vois bien, même en me voyant encore aujourd'hui à mon âge, que je suis pas du style à rester enfermé quelque part. Donc je crois que c'est surtout ça contre lequel je me battais, c'est comme si d'accord. Tu enfermais un chat.
Oui, je comprends bien.
Quand tu enfermes
un
chat dans une caisse, quoi, c'est la même chose.
Oui.
Sauf si tu le castres.
Ah oui.
Tu bouges plus.
Non, mais attends, même.
C'est pour ça que je parlais de... Les produits chimiques que font pas mal de...
Pour que tu restes tranquille, en fait, c'est ça.
J'ai plus retaille, c'est souvent ça, quand même.
Oui.
Et toi, tu avais besoin de cette liberté
Oui, j'ai toujours eu besoin. D'ailleurs, à une époque, je m'étais posé la question, mais beaucoup plus tard, dans la question de devenir moine. Mais il y a le fait de ne pas pouvoir tout simplement sortir et...
Ouais. Aller où bon te semble.
Ouais,
et,
d'accord. Ouais, tout à fait.
Et donc en Algérie, après, tu es resté longtemps? Tu as fait des études aussi en Algérie?
Alors en Algérie, j'ai fait 3 ans à cette époque-là. Mais j'étais toujours enfermé dans un bahut, quoi. Et donc voilà, j'ai pas vu grand-chose.
Rien n'a changé.
Ouais.
Est-ce que tu en tires quand même du positif? Est-ce que ça t'a permis, par exemple, d'apprendre la musique? Parce que j'ai l'impression que chez les jésuites, on écoute quand même de la musique, peut-être la musique sacrée.
Oui,
classique.
C'est pour ça qu'à l'époque, j'étais dans la... C'est quand j'étais à Juilly, qui est une école connue à Paris, j'étais dans la chorale de Juilly. Et donc, le maître de chaire, c'était Maître Scherrer, et l'organiste, c'était Gaston Litaise, qui tenait les orgues de Saint-Eustache, à l'époque, et qui venait donc jouer aux orgues de Juilly.
D'accord.
Voilà, donc... j'avais une oreille très musicale, quoi, C'est ce qui m'a permis de parler 4 langues différentes, c'est-à-dire le français, bon, bien sûr, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, et quand j'étais petit, je parlais l'arabe.
L'allemand, est-ce que ça tient du côté de ton grand-père? Tu as dit Müller.
Non, l'allemand, c'est tout simplement, je l'ai appris en 6 mois, parce que j'ai fait du latin grec à l'école. Donc entre le latin, pour toute la conjugaison, toute la forme des phrases... Je veux avec toi un verre boire, ça c'est du latin. Et c'est la manière de parler des Allemands. D'accord. Donc toute cette partie-là, c'était allemande. L'anglais, je le parlais relativement couramment. Donc entre l'anglais et le latin, en 6 mois, j'ai pu apprendre l'allemand de manière à passer un concours pour faire l'école Siemens à Munich.
D'accord, mais wow. Müller, donc de ton grand-père, c'est un nom allemand, ça.
C'est un nom allemand, oui.
Tu es d'origine allemande, quand même, côté.
C'est un nom allemand. Non, enfin, c'est un nom alsacien.
Oui.
Et c'était, oui, d'origine allemande, oui. D'accord. Müller, qui est un.
Müller.
Oui. Qui fait de la minoterie. C'est un minotier.
Le meunier.
Un meunier, oui.
Tout à fait.
D'accord. Hein. Donc, après l'Algérie, tu es parti en Allemagne? C'est ça? Non?
Non.
Non, c'est
je suis d'abord passé
ça.
Par Toulouse. Enfin, d'abord par Sète.
Belle ville.
Où j'ai été encore enfermé dans un bahut à Sète pendant 2 ans. Non, 1 an et demi. Ils m'ont viré au bout d'un an et demi. Et après, je suis venu à Toulouse, où j'ai été à l'école à Saint-Jean, à Montauban. À Saint-Théo, à Montauban, pardon. Pendant, là, ils m'ont gardé un peu plus longtemps, je crois que c'est
Et là, tu arrivais quand même, pendant que tu faisais des études, tu étais brillant au niveau des études, ou c'était tout n'allait, enfin, c'était rien qui n'allait bien, quoi. Le caractère et les études, est-ce que ça t'intéressait ou pas?
Non, ça m'intéressait pas, d'autant plus que je suis trop pragmatique pour ça. Autant après, quand j'ai su ce que je voulais faire, j'ai été très brillant. Autant, quand j'étais à l'école et que, c'est-à-dire toute la partie, par exemple, les maths, si tu veux, quand on a commencé à toucher aux irréels, aux machins, etc., aux fonctions qui n'avaient pas de sens pour moi,
mm-hmm.
ça m'intéressait
D'accord,
pas.
D'accord, je comprends, ouais.
Alors qu'après, pour travailler sur satellite, les séries de Fourier et compagnie, on en faisait en permanence. Ça m'intéressait, je savais pourquoi je travaillais,
D'accord.
pourquoi j'avais besoin de toutes ces maths.
Mm-hmm. Et aller jusqu'à quel niveau à l'école? Bac?
Jusqu'au bac.
Bac? Bac,
bac
quoi?
Un bac philo.
Philo, hein.
Oui.
Encore un point commun.
Oui, oui, c'était la gamelle, quoi.
Terminale à 4,
tout à fait. Oui, oui,
c'est tout à fait ça. Et alors après, tu.
Et après, en termes d'études, alors après, j'ai eu la chance de faire l'école Siemens à Munich, voilà. Qui était la moitié donc en salle de classe, où on apprenait les algorithmes, l'électronique, le COBOL et compagnie. Et l'après-midi, on était en usine pour travailler directement.
D'accord.
C'était l'alternance, mais dans les années 70. Et puis après, je suis revenu en France et j'ai fait un BTS.
D'accord.
Voilà.
Là, tu étais libre déjà.
Voilà, oui, enfin voilà.
Ah ben, comparé à avant, tu faisais un peu ce que tu voulais, c'est toi qui choisissais ta
vie. Oui, tout à fait. Mais je savais ce que je voulais, et donc ça m'arrangeait.
Et tu voulais quoi?
Et après, j'ai eu les États-Unis, où j'ai eu beaucoup de cours, où il y a quelque chose que j'ai dû louer.
Oui, t'as loupé, non, je t'ai dit, et tu voulais quoi? Tu m'as dit, je savais ce que je voulais, mais tu voulais quoi alors?
Alors, ce que je
voulais... arriver à quoi?
Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est tout ce qui tournait, mine de rien, autour de la musique, effectivement... et de l'électronique, informatique un petit peu, bien que j'ai fait beaucoup d'informatique dans ma vie, mais c'était surtout l'électronique, le côté ampli, machin, etc. J'aurais aimé être ingénieur du son. C'est ce qui m'aurait plu. Déjà à l'époque, oui.
D'accord.
J'étais, c'est-à-dire que j'ai été trempé dans la musique classique très tôt.
Mm-hmm.
Très tôt, oui.
Et pourquoi tu n'as pas essayé d'être ingénieur du son? Qu'est-ce que c'est qui t'a...
Ben, c'est surtout que bon, j'étais enfermé dans des bahuts, mais en dehors de ça, quand j'étais en dehors de ça, j'avais pas un rond.
D'accord.
J'ai pas eu un rond. J'ai eu une période où j'ai été sous les ponts à Paris pendant 1 an et demi.
Ah oui, carrément.
Ben parce que j'avais pas. Tu sais, quand tu quand tu vas d'un truc à un autre, si tu n'as pas de parents.
Et oui, si t'as pas la famille,
deux,
bien sûr.
Voilà, c'est ça,
et
c'est
oui,
tout.
Oui, 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 d'accord.
J'avais pas d'intermédiaire, quoi.
D'accord.
Pour toi, la chanson « Sous les ponts de Paris
oui, »,
ça veut pas dire exactement pareil, quoi.
Oui, mais je dois reconnaître que ça n'a pas été la plus mauvaise période, parce que c'était dans les années 70, par là, dans les années 70, et ça n'était pas ce que ça doit être aujourd'hui.
Ouais,
voilà, et j'allais te demander, donc, les années, donc, tu as été un peu, pas hippie, mais tu as connu cette période 68.
Oui. Oui,
et c'est là où tu as découvert non plus le classique, mais Eric Clapton, par exemple. Ce style de musique.
Non, je ne l'aimais pas à cette époque, à l'époque des Prince. Non.
Ah.
Non, ce que j'aime bien chez Clapton aujourd'hui, par contre, c'est la manière carrée et la manière dont il joue. C'est beaucoup moins
dans tous les
débraillé
sens.
Que ça l'était avec les Prince.
Oui. Puis en plus il n'était pas payé à l'époque. Tu sais pourquoi? Parce que le crime ne paie pas.
Le crime ne paie pas, oui.
Alors donc, on
va si écouter
le deuxième
morceau.
Voilà, tu as choisi, c'est Eric Clapton et Marcus Miller.
Alors, c'est surtout pour Marcus Miller, en fait. C'est à Montreux, c'est un enregistrement à Montreux. Et Marcus Miller joue de la clarinette de basse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça.
Oui.
C'est une clarinette qui va jusqu'au sol.
Qui touche au
terre. Ah non, non, moi, j'ai jamais vu ça.
Et qui, au départ, avait été plus ou moins créée. Le principe avait été créé par Mozart pour son concerto pour clarinette.
Ah,
parce qu'il
d'accord.
descend très bas, surtout dans le deuxième mouvement. La clarinette descend très, très, très bas. Et donc, elle descend des octaves au-dessous de la clarinette normale.
D'accord.
Et Marcus Miller se permet, le Lascar, de venir sur scène avec une clarinette de basse.
D'accord.
Tu vas l'entendre, il joue derrière. Et après, donc, comme c'est un, quand même un moderne hip-hop et compagnie, on l'entend avec sa basse électrique. Mais au départ, il démarre avec ça.
Ok. Eh bien, on va écouter alors.
Allez, Mathias, à toi.
Allez, c'est parti. What do you do when you get lonely? There's no one waiting by your side. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, begging, darling, please. Darling, won't you ease my burden? Tried to give you consolation.
Marcus Miller.
Ouais, superbe morceau.
Superbe choix.
Ouais.
Mmh. Oh, oui, oui, c'est...
Tu aimes toutes les musiques ?
Non, je n'aime pas le free, je n'aime pas à partir du moment où il n'y a pas de phrasologie. C'est-à-dire le free, quand ça se barre dans tous les sens, à ce moment-là, non, je ne suis pas très preneur. Mmh. Et pourtant, en classique, c'est la même chose.
Et pourtant, le free, en fait, moi, je n'aimais pas non plus.
Oui.
Et par exemple, Sun Ra, ça me dépassait complet. Et en fait, Sun Ra est un musicien extraordinaire. Et pour arriver à faire du free jazz, il faut avoir toute cette formation.
Oui, 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 je suis d'accord.
Oui, c'est
alors,
c'est
que
certain.
Les gens qui ont cette formation, qui comprennent vraiment le free jazz, parce qu'ils comprennent la subtilité des arrangements. Quoi.
Non, moi je pense que c'est une structure de la pensée et du cerveau qui
moi,
font
je, moi, je comprends pas
qui font
musique,
qu'on arrive à comprendre le free.
Je crois que c'est ça,
pas.
Je suis d'accord.
Moi je sais que dans les gens qui m'ont aidé, enfin qui m'ont entouré aussi bien pour me perfectionner en classique qu'en jazz. En classique, c'était aussi bien Boulez que je ne suivais pas du tout. Ils n'ont pas réussi à me faire rentrer le Boulez dans le crâne. J'ai pas mordu du tout. Ouais. Et après, tu vois, par exemple, j'aime bien Sonny Rollins, mais je m'arrête au moment où il part un peu en free, là. Tu sais, où il part...
Oui, oui, mais après,
je comprends
c'est
tout à fait.
Ça, c'est son goût et les couleurs, après.
Mais c'est un mode de compréhension.
Oui, je pense.
C'est un mode de fonctionnement du cerveau.
Oui, je crois, oui. Ouais.
De même que j'ai été facilité à apprendre plusieurs langues, etc. Tout le monde est ému, moi je suis pas ému. C'est un mode de fonctionnement du cerveau. De même que toi, il y a des trucs que tu fais que je serais incapable de faire et que toi tu fais facilement.
Mm-hmm. Ouais, je pense aussi.
Merci.
Alors on en était où de ta vie ? Je sais plus après la musique. Là,
ben,
ça
tu
m'a...
as fait l'école de.
au gré de mes pensionnats.
Voilà.
Au gré de... Non, mais que tu as commencé à travailler donc, chez Siemens, c'est ça que tu dis.
Alors, j'ai commencé à travailler chez... Non, j'avais même commencé à travailler avant, parce que quand j'ai passé mon bac, je travaillais déjà. Je travaillais à l'INSEE. Tu m'imagines, moi, comme fonctionnaire ?
D'accord. C'est ma foi.
Alors, voilà. Je travaillais à l'INSEE, rue Boulitte, à Paris, dans le 14e, près d'Alésia. Et voilà. Et après, j'ai passé un truc intéressant qui m'a apporté beaucoup, aussi bien dans mes études, et qui m'a donné aussi une formation supplémentaire. C'est que j'ai réussi le concours de pilote de chasse dans l'armée de l'air, que j'ai réussi, et que je n'ai pu faire qu'un an et demi parce que j'avais des problèmes. J'ai eu un problème de fond de l'œil, mais j'ai eu une formation aéronautique qui était très, très, très intéressante. J'étais à Aulnat.
Tu l'as fait à Nîmes ?
Non, à Aulnat.
C'est pas où c'est ?
Clermont-Ferrand.
Ouf. D'accord.
Qui aujourd'hui, j'y suis passé encore dernièrement, là, c'est devenu l'aérodrome de Clermont-Ferrand, et il y a un petit coin militaire, mais voilà, non, j'étais à... Alors Nîmes, c'est la formation pour les, ce qu'on appelait les rampants.
Ah mais, les rampants, peut-être pas, parce que mon père était pilote de chasse, il a fait l'école de Garand, Nîmes, tout ça,
oui, mais,
il faisait...
Oui, mais ton père, il est de quelle année, ton père ?
Et oui, c'est...
1918.
Ah voilà, c'est ça.
Et ouais.
Alors après, ça a été Aulnat.
D'accord.
Et maintenant, c'est Cognac.
Oui.
Voilà, parce que les écoles ont changé de place en fonction des politiques, etc.
À tous les niveaux, même après, il était à Francazal, ça n'existe plus.
Oui, voilà, d'accord. Moi, j'ai terminé à Bourges.
Bourges. Tu aurais pu être le franciscain de Bourges, toi.
Oui.
D'un côté.
Ouais. Et après, comme je suis passé à Calais, c'était le truc des bourgeois de Calais. Non, mais attends, on peut continuer comme ça, hein, mais... Bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course.
Et,
oui.
Et alors, comment tu as atterri aux États-Unis ?
J'ai terminé aux États-Unis.
En avion.
De par la formation diverse que j'avais, j'ai été recruté, j'ai trouvé un boulot dans une boîte. Donc, il y avait une grosse agence en France, à Paris, qui cherchait donc un technicien pour travailler sur les.
Et tu avais envie de partir ?
Envie de partir, oui, ça m'intéressait, oui. Ouais. Donc, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis, aller-retour, etc. Puisque moi, je dépendais de l'agence française, mais qui m'a permis de faire le tour des États-Unis pendant une dizaine d'années à peu près.
Ah, d'accord.
Ouais.
Super. Et là, tu as dû en voir des musiciens, aller à des concerts, assister à des
trucs. Mais les meilleurs trucs que j'ai vus, c'était Chicago, Saint-Louis, New Orleans.
D'accord.
San Francisco, un peu moins au niveau musique. J'ai fait Boston également. Je parle d'un endroit où je suis resté un peu un certain temps. Mais c'était surtout la Nouvelle-Orléans.
D'accord.
Ah oui, c'était formidable. Et Saint-Louis aussi. Je ne sais pas si je l'ai... Non, je ne l'ai pas mis, je l'ai enlevé parce que ça aurait été un peu dur à comprendre du premier coup. Mais c'est là-bas que j'ai vu Sonny Terry et Bronnie McGee.
C'est plus du folk, ça.
Oh là là, quand tu vois ça, mais tu peux pas ne pas aimer la musique, quoi. C'est voilà. Et Sweet Emma, c'est un peu dans
mon style. Ça sont toutes les premières références avec Johnny Hooker, avec Blind Lemon Jefferson, tous les aveugles qui jouaient de la guitare, qui démarraient. Ça, c'est les bases de la guitare. Tout ça.
Et j'en ai revu un paquet, mais je pense que toi aussi, Michel, t'as dû aller traîner tes galoches là-bas. J'en ai vu aussi pas mal au Blue Note et à la Huchette, au caveau de la Huchette.
Et hélas, non, moi je connaissais à Paris, je sais plus comment ça me reviendra tout à l'heure, un endroit où jouaient tous les mecs qui faisaient du picking, quoi.
Oui.
Ça me reviendra le nom tout à l'heure.
Ben le Blue Note, c'était Club Luther. Aussi,
oui, et puis on y est passé avec Cathy, comment ça s'appelle, le petit journal.
Oui.
Voilà.
Alors il y avait Claude Luther au Blue Note et Maxime Sory qui était au caveau de la Huchette. Et donc, ils recevaient leurs copains, a priori américains, enfin quelques Français aussi, mais leurs copains américains, quand ils venaient à Paris, ils passaient les voir.
La Vieille Herbe.
Hein ?
La Vieille Herbe, à Paris. Et c'était un endroit aussi comme ça, où il y avait beaucoup de musiciens américains, français, Marcel Dadi aussi, tous ces gens qui étaient là. Centre-américain aussi.
Mm-hmm.
C'est tout. Mais ça, c'est beaucoup sur Paris. C'est ce qui est dommage. Hein.
Et pour la musique, j'ai eu la chance également de... Pour la musique, j'ai eu la chance également d'avoir des copains à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc les disques, ils arrivaient par container.
D'accord.
Et toi, t'as jamais eu envie de jouer d'un instrument?
Si.
T'as essayé?
Mais pas d'argent.
Ah, toujours cette histoire d'argent.
Mais pas d'argent, oui.
Mais là, après, et plus tard, t'as pas eu envie d'essayer?
Alors plus tard, après, j'ai eu un boulot qui me prenait énormément de temps.
D'accord.
Parce que quand tu bosses dans une boîte américaine, c'est pas 35 heures. Hein.
D'accord. Et après, donc, t'avais l'argent, mais plus le temps, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et l'amour, dans tout ça?
Et l'amour, bordel.
Et la tendresse, bordel.
Oui, c'est là, oui, la tendresse, oui.
Le fait d'être chez les jésuites, ça t'a peut-être fait avoir une histoire d'amour tardive, non?
Non, j'ai été... Bon, ça peut se voir dans mes yeux, pour quelqu'un qui fait un petit peu de morphopsycho. Si, je suis quelqu'un avec des émotions, donc tu peux te douter que l'amour, j'ai connu. Mais un peu comme un chat griffé, un peu comme un chat qui a pris l'eau, quoi. Donc l'amour a pris l'eau, puisque c'est ça, c'est quand même l'amour maternel qui est à l'origine de nos comportements dans le domaine de l'amour, que ce soit pour nous les hommes, peut-être un peu moins pour les femmes, mais je pense que ça doit revenir aussi un peu au même.
Je pense que c'est pareil. Ouais.
Si, je pense que c'est la même chose, ouais.
Alors donc chat échaudé, crème l'eau froide.
Sauf qu'après, la femme met au monde un enfant,
oui.
Ou pas. Ça,
oui.
Est-ce que tu as des enfants, Pierre?
Oui, j'ai trois nanas.
Trois nanas?
Trois nanas,
ah,
oui.
Ah ben tiens.
Tu rattrapes temps perdu, quoi, si
oui.
Je veux dire.
Trois filles, d'accord. Avec la même femme?
Oui.
Avec que tu as rencontré quand?
Pardon?
Tu l'as rencontré quand?
Ma femme?
Oui.
Je l'ai rencontrée en 1977, quand je suis revenu d'Allemagne. Voilà. Et on s'est mariés pratiquement en 78 ou 19.
C'était le coup de foudre?
Oui.
Ouais.
Oui. Et on a vécu 27 ans ensemble.
Waouh.
Voilà.
Donc vous n'êtes plus ensemble à l'heure actuelle.
Et on n'est plus ensemble à l'heure actuelle.
Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame?
Je ne me souviens plus.
Passons. Et donc, comment tu as atterri dans l'Aveyron?
À l'Aveyron.
De manière très amusante pour un boulot.
Pour un boulot?
Oui.
D'accord.
Oui, parce que je faisais vers la fin de ma période de travail, je faisais plus des sortes, comment dirais-je, d'aide, d'audit aux entreprises. Pour avoir vu tout ce que j'ai vu, j'étais à même de dire ce que j'avais vu ailleurs, pour simplifier la chose, de dire de voir de ce qui avait bien marché ailleurs et de ce qui n'avait pas marché ailleurs.
D'accord.
Et dans le monde entier, quoi.
D'accord.
Donc j'avais une certaine richesse de connaissances et... Bon, l'informatique là-dessus que je maîtrise assez bien, etc. Donc, voilà. Donc, je suis venu dans le Rouergue. J'ai d'ailleurs été étonné parce qu'au départ, je croyais que c'était Villefranche de l'Auragais.
Mm-hmm.
Donc, j'étais content de Toulouse, ouais. De me rapprocher de la mer. Puis, quand j'ai vu Rouergue, je ne savais même pas ce que ça voulait dire.
Rapprocher de la montagne. Là,
et voilà. Et donc, j'y suis resté jusqu'à 3 ans avant ma retraite, mais repartir de nouveau, soit à Toulouse, soit à Paris, à 57 ans, non, bon. Donc voilà, je suis resté 3 ans au Chaume-Dieu avant ma retraite. Donc en gros, voilà, période de travail, fin, une croix.
D'accord, et là donc tu travailles plus, et tu
Par as... contre, je m'occupe pas autant, mais dans le même style de travail que ce que je faisais quand je travaillais, quoi. Là, à l'heure actuelle, ce qui m'occupe beaucoup, c'est la photo, mais la photo technique. Je ne suis pas un photographe façon les grands photographes connus.
Mm-hmm.
Moi, je suis un photographe qui est plus dans la recherche de du travail précis, retouché avec les logiciels ensuite,
d'accord,
etc., pour faire une très très belle photo.
D'accord.
Eh bien, on va en parler après le prochain morceau, Bill Evans et tous, comment tu dis,
tous Tillman.
Bill Evans, c'est un tromboniste?
Ah non, Bill Evans, c'est un pianiste. C'est le pianiste de jazz le plus connu.
Il y a un Evans qui fait du trombone.
Gilles Evans.
Gilles Evans, voilà, d'accord.
C'est Gilles Evans,
okay.
Qui est également conducteur d'orchestre.
Oui, et de poids lourd quand il était
et
jeune.
Et de poids lourd, oui, quand il est entré de... Tout à fait, tout à fait. Non, mais
et,
je suis d'accord.
Et Tove Stillmans.
C'est un saxophoniste et harmonica suédois. Mais Bill Evans, c'est monsieur piano du jazz, c'est le plus grand. Après, il y aurait peut-être Correa qui viendrait un peu plus loin derrière, etc. Mais Bill Evans, c'est la perfection. C'est le Brendel du...
Et Sonny Rollins.
Pardon ?
Sonny Rollins.
Sonny Rollins, c'est du...
C'est la bibine, c'est quoi ça ?
C'est du saxophone, ça, Sonny Rollins.
Ah oui, mais il y a Sonny Rollins qui joue du piano aussi.
Oui, exact.
Ah bon, je suis certain.
Oui, tout à fait, oui, oui, oui.
Allez, on écoute.
On écoute. En fond, toujours Bill Evans, c'est Tove Stillmans, parce que ce sont des morceaux très très longs, si on veut parler avec toi. Mm-hmm. Et si on veut savoir, par exemple, quel est le premier morceau de musique dont tu te souviennes dans ta vie ?
C'est le concerto numéro 2 pour piano et orchestre de Rachmaninoff.
Wow.
Et joué par... le russe, là, oh là là là, ça, ça va, tu verras en vieillissant, c'est bien. Hein.
Oui.
Enfin, par un pianiste russe très connu, quoi. Zlatoslav Richter, pardon.
Ah ouais, tu parles.
Voilà.
Je connais très
d'accord.
Bien.
Oui, c'était vers 6 ans, par là. Quand j'avais.
Ah bon
oui, vers l'âge de 6 ans.
Ah, mais moi, j'allais te dire, oui, mais plus jeune, mais c'est donc à 6 ans.
Ah oui, oui, très jeune, j'ai été baigné là-dedans, oui.
D'accord.
J'ai été baigné là-dedans et j'ai eu la chance d'être. Donc la vie m'a apporté quand même pas mal de choses, c'est de baigner dans un milieu de bargeaux de musique classique, quoi. J'ai commencé par le classique et ensuite ça a été le jazz.
Ben, c'est voilà. Pas mal quand même, et avec quand même après le blues, tout ça quand même.
Oui, qui était
toutes les musiques. Tu aimes quand même un peu toutes les musiques, hein. Sauf peut-être les musiques militaires.
Hein. Non, ce que je n'aime pas, c'est la musique. Enfin, pardon de dire ça, mais qui à mes yeux ne veut rien dire.
Oui.
Les
le
musiques,
rap, par exemple.
Le rap, il cherche à donner quand même un petit quelque chose. Il y a d'ailleurs un super disque qui s'appelle Back on the Block par Quincy Jones, mm-hmm, qui est Quincy entièrement Jones. Tourné sur le rap. C'est magnifique.
Ah ouais, d'accord.
Oh, je vous le présenterai un de ces quatre. C'est magnifique comme truc. Non, parce que ça a un sens. Et puis il y a des gars, on le voit aux États-Unis, on le voit beaucoup ce côté. Mais par contre, quand on le voit importé en Europe, c'est souvent une occasion de. On a l'impression de gens qui cherchent plus à se faire connaître qu'à faire passer
oui.
un message.
Mm-hmm.
Oui, mais ça ouais. dépend. Il y a aussi des musiques qu'on ne comprend pas parce que c'est. C'est la façon de parler de certaines personnes de maintenant, de certains jeunes. Il faut être ouvert.
Non, mais tu vois, même par exemple, je trouve qu'il y a un gars dont on parlait beaucoup en France qui s'appelle Grand Corps Malade.
Oui.
Je sais pas, il y a de la musique ascenseur derrière lui, là, qui monte, qui descend, comme disait Charles
Bois. Il a quand même des textes sympathiques. Mmh. Hein. Il a des textes...
Qui jouent trop sur la sensibilité.
Ah,
et la,
c'est sûr. À chaque fois,
j'aime
c'est
pas les gens
un
qui
peu
jouent...
mélo, tu veux dire. Un
ouais.
peu, oui, oui.
J'aime pas les gens qui jouent sur les émotions.
D'accord.
On peut très bien parler de choses... Il y a une manière de parler des choses sans rentrer sur la corde émotive.
Mm-hmm.
Alors, oui, pardon. Oui.
Non, c'est ça. Non, j'essaie de mettre plein de questions. Est-ce que tu lis ?
Non, depuis mon divorce, je ne lis plus.
Est-ce qu'avant, tu lisais ?
Oui.
Quel est... Ton livre préféré, si tu devais emmener un bouquin, ça serait quoi ?
Waouh, ça c'est une question.
Il y avait un bouquin qui m'avait beaucoup interpellé, c'était un des bouquins faits par Ignace de Loyola. Et sans rentrer dans l'histoire de curé, de Cubeni et compagnie, Ignace de Loyola, c'est celui qui a créé les jésuites.
Mm-hmm. Oui, oui.
Et parce que j'aime bien son pragmatisme. Et c'est un gars qui approchait la religion en disant « Attendez, il faut d'abord que vous soyez un être humain équilibré et normal pour pouvoir ensuite vous mm-hmm. élever, mais il faut avoir une bonne stabilité, ah, quelque chose de stable pour
d'accord.
pouvoir construire quelque chose dessus. »
Est-ce que tu as lu les livres de Lanza del Vasto ?
Non.
Qui avait fait l'Arche.
Non, je ne sais pas, non.
C'est
des Cuellos, j'ai lu des Cuellos aussi, qui étaient pas mal.
Des Cuellos, bien sûr. Hein. Mais alors là, niveau lecture, Cathy est un puits de culture. Hein. Oui.
Quelle est la qualité que tu préfères chez l'homme ?
Ah, l'honnêteté.
Et chez la femme ?
Pareil.
Mais c'est pas toi que je demande, Michel.
Oui, en considérant que la femme est un homme, qu'un être humain, quoi. Oui, l'honnêteté... J'aime bien quand même j'aime bien quelque chose qui s'en va un petit peu dans tous les sens de nos jours, c'est la féminité, la femme. C'est ce que j'aime bien chez toi. J'aime bien cette féminité et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les jeunes filles aujourd'hui, je sais pas, on dirait qu'elles sont gênées par leur féminité.
Elles assument pas leur côté.
Je pourrais pas l'expliquer. Non, je préfère me taire parce que j'ai pas été chercher vraiment, mais...
Est-ce que la femme est l'avenir de l'homme ?
De toute façon, elle en est l'origine déjà, mais après ça...
Ah oui, ça,
c'est tout à fait d'accord. Est-ce que c'est la poule qui a pondu
l'origine,
etc. Quoi, voilà.
Brel qui dit, je ne suis pas certain, comme diraient d'autres, que la femme soit l'avenir de l'homme. Lui, c'est l'inverse qu'il disait.
Oh, ben toi, remarque, tu peux parler, parce que tu as une égérie à côté de toi qui te permet quand même d'être heureux.
Ah, ben, tout à fait.
Ah, ben voilà. Donc non, la question, je te la renvoie.
La religion, qu'est-ce que tu en penses?
Oh, elle est galvaudée, elle est...
Est-ce que tu es croyant toi-même?
Ah oui, oui, moi je suis... Ah oui, j'ai pas le droit, j'aurais pas le droit de pas être profondément croyant, oui, oui.
Et ça t'a pas dégoûté, les jésuites, de ça?
Si, j'ai eu la période de dégoût, comme tout le monde, et puis... et après ça, où mon côté pragmatique m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des choses là-dedans. Et qu'il y avait quand même quelque chose de très puissant là-dedans. Et alors aujourd'hui, la religion, ça veut plus rien dire, parce que c'est ramené au niveau de rituel et de... Mmh. C'est pas ça, la religion. Quand on lit l'Évangile et quand on a eu la chance de le lire avec des gens qui voulaient un peu aider à l'expliquer, notamment les bénédictins, j'ai eu cette chance, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pas une somme d'interdits et de préconisations.
Oui. D'accord.
Je vais laisser la dernière question à Cathy, parce qu'il reste une minute.
Oh, yeah.
Alors, on se quittera sur Jean-Luc Ponty, Aldi Meola, Stanley Clark, sur un morceau qui s'appelle Renaissance. Je crois que c'est le morceau que tu préfères. Comme ça, ça sera terminé sur ce morceau.
Oui,
Voilà que je voulais te poser, c'est quelle est la faute qui t'inspire le plus d'indulgence?
Je crois que malheureusement, on est obligé, si on est vraiment un être humain à part entière, d'être à même, non pas de pardonner, parce que le pardon, je crois, n'est pas humain, mais de comprendre quelque chose. Je peux pas dire autrement.
D'accord.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je comprends, oui.
C'est-à-dire que la faute, moi je l'ai vue, chaque fois que j'ai un petit peu inspecté de plus près la faute de quelqu'un, on se rend compte que les origines montent de plus en plus loin dans l'éducation de la personne, et on comprend quelque part, finalement.
Et tu comprends, il y a toujours la compréhension derrière la faute, il y a toujours la compréhension.
Voilà, moi je pense qu'il faut tout pardonner. Déjà, les gens vont nous pardonner d'avoir un peu dépassé l'heure. Et donc, on va se quitter avec Jean-Luc Ponty, Aldi Meola, Stanley Clark, un morceau qui s'appelle Renaissance. Merci à Mathias pour la mise en onde.
Merci Yves, on a voyagé pendant une heure, c'était super agréable.
On te fera revenir
agréable.
Parce que
on n'a pas fini.
On n'a pas fini avec toi. Et si tu veux bien revenir, ce sera avec plaisir.
Merci de votre accueil, je suis très touché.
Très sympa. Merci beaucoup.
Et merci à Cathy d'être
merci Michel.
Aussi...
Merci Mathias.
Mon égérie.
Merci à tous, à la semaine prochaine.